Cette semaine avait débuté en France avec l'annonce par le gouvernement socialiste du report de son projet de loi sur la famille, initialement prévu en 2014. L'exécutif s'est par ailleurs engagé à refuser toute libéralisation de la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes et toute légalisation de la gestation pour autrui. Une décision qui intervenait au lendemain de la manif pour tous. Ludivine de la Rochère, présidente de l'association, nous disait sa satisfaction.
Bien sûr une victoire très importante pour nous. Néanmoins, il reste beaucoup de chemin et beaucoup de sujets autour de tout ce qui concerne l'enfant et la famille. J'ajoute que de toute façon, sur la PMA, il y a quand même encore l'avis du Conseil national d'éthique qui est attendu. Cet avis, M. Hollande avait dit qu'il le suivrait. Et puis sur la gestation pour autrui, il y a une circulaire, la circulaire Taubira, qui facilite en fait le recours à la GPA à l'étranger. Et puis, il y a des questions qui se posent autour de l'enseignement du genre à l'école, autour de la réduction du congé parental et dans une politique fiscale qui est utilisée à l'encontre des familles. Donc nous avons malheureusement encore beaucoup d'enjeux et nous avons encore beaucoup de choses à faire entendre.
Autre sujet qui a retenu notre attention ces derniers jours, la publication du rapport du comité de l'ONU sur les droits de l'enfance, un rapport très sévère à l'égard du Saint-Siège, directement accusé de ne pas en avoir fait assez face au cas d'abus sexuels sur des enfants. Ce texte semble ignorer ou ne pas tenir compte du travail important accompli ces dernières années. Monseigneur Tomasi, l'observateur permanent du Saint-Siège à Genève, réagissait sur notre antenne.
Peut-être une bonne partie du texte était déjà formulée et on a ajouté quelques paragraphes pour prendre en considération les échanges qui sont parvenus entre le comité et la délégation du Saint-Siège. Vraiment, la réalité n'est pas complètement ce que le comité même a présenté dans son rapport.
Dans l'actualité internationale, l'Ukraine était une nouvelle fois à la une cette semaine. La crise politique qui secoue le pays n'a fait qu'aggraver ses difficultés financières. Pour sortir de l'ornière, Kiev a besoin dans l'urgence d'une aide massive. Européens et Américains préparent un important programme d'assistance financière. Il serait une solution de rechange à l'aide proposée par Moscou. L'analyse de Xavier Folbouc, chercheur à l'Institut de sciences politiques de l'Université catholique de Louvain.
Je pense que l'intérêt de l'Union européenne, c'est quand même d'encourager les initiatives de ses opposants pro-démocratie et pro-européens. Il était important que l'Union européenne leur donne un signal fort qu'ils n'étaient pas abandonnés. Ça faisait quand même pas mal de temps qu'ils attendaient ça. Et de l'autre côté, c'est une intervention européenne qui permet quand même de laisser l'initiative au président. Il est simplement question d'accorder une aide au nouveau gouvernement ukrainien, mais la présence à la tête du gouvernement et à la tête de l'État du président Yanukovych n'est pas du tout remise en cause.
Autre continent, autre crise. Au Yémen, la situation est de plus en plus préoccupante. Multiplication d'enlèvements, vagues d'explosions, dont l'une a eu lieu aux abords de l'ambassade de France. De nouvelles violences alors que le pays tente d'avancer dans une transition politique difficile. L'État a-t-il les capacités de ramener l'ordre dans le pays? Nous avions posé la question à Samy Dorlian, spécialiste du Yémen.
C'est vrai que l'autorité de l'État est historiquement faible. L'État yéménite a toujours composé avec les forces sociales. Et ces forces sociales, actuellement, elles ne sont pas en symbiose. Rien n'indique qu'on va dans la bonne direction, en dépit des efforts sérieux faits par les différents groupes de travail au sein de cette conférence de dialogue national.
Des balais lumineux, des feux d'artifice, les Jeux olympiques de Sotchi en Russie se sont ouverts vendredi en grande pompe. Un spectacle grandiose donc pour ces Jeux les plus coûteux de l'histoire, 37 milliards d'euros. De quoi alimenter les soupçons de corruption qui pèsent régulièrement sur le pays. Nous vous proposions l'éclairage d'Anne de Tinguy, spécialiste de la Russie et professeur à l'INELCO et au CERI Sciences Po.
Les Russes sont très sensibles à cette question de la corruption. Et quand on les interroge justement sur la perception qu'ils ont des JE de Sotchi, ils disent très clairement, pour la plupart d'entre eux, que en fait, l'organisation des Jeux de Sotchi est un prétexte pour les dirigeants russes pour une opération financière. Et quand on les interroge sur les coûts de ces Jeux, pour eux, ça ne fait aucun doute. Ils l'expliquent massivement par la corruption, l'absence de scrupules des entreprises. Donc, cette cette histoire de corruption peut augmenter les tensions en Russie. C'est un point qui est important.
Cette semaine, nous nous sommes également intéressés à Facebook qui fêtait ses 10 ans. Le réseau social est aujourd'hui une composante de notre vie quotidienne, un outil incontournable dans le monde médiatique, dans la circulation des idées. Pour Dominique Volton, spécialiste des médias et de la communication, Facebook participe positivement d'une culture de libération de la parole, mais peut s'avérer dangereux.
C'est pas Facebook qui crée toutes les libertés, hein. C'est le mouvement culturel global qui s'incarne dans Facebook. C'est pas Facebook qui fait que les gens se parlent plus facilement. C'est un profond mouvement quand même de la liberté, la recherche de la parole et compagnie, qui trouve dans Facebook un réseau. Moi, le communautarisme et les tribus, pourquoi pas, je suis pas hostile. Je suis hostile le jour où, effectivement, il n'y a pas d'autre valeur que celle-là. Donc, quand on m'a dit le mouvement va à la communautarisation, il oblige à réaffirmer simultanément, c'est bien là qu'est la difficulté, des valeurs qui transforment les communautés. De ce point de vue-là, l'Église catholique, on peut dire ce qu'on veut, c'est un exemple formidable.